Et il dépasse cette opposition que Pascal Chabon nous révélait hier entre Hegel et Nietzsche. Hein? Nietzsche, l'homme se construit lui-même. Mais Hegel, oui, mais il a la reconnaissance des autres. C'est-à-dire, mais il part d'une nature, il part d'une vie commune de la nature. Vous réconciliez les deux de cette façon-là. Alors, vous voyez, ça permet au fond de poser ici une anthropologie, parce que l'homme, effectivement, l'homme du septième jour est un être qui va accéder à la liberté. C'est Elie Wiesel qui disait qu'on ne peut pas ressembler à Dieu si ce n'est pas la liberté. Parce que le reste, ça ne ressemble pas tellement. Mais notre liberté est quasi divine, elle n'est pas totale, mais elle a quelque chose de divin. Dans la mesure où nous devenons de véritables recréateurs. Il faut s'arrêter un peu sur cette liberté. En quoi consiste cette liberté? Cette liberté consiste pour moi à devenir sujet. Sens bête de la grammaire. C'est-à-dire, un sujet, c'est celui qui fait l'action. C'est ce que j'apprenais à l'école. On a probablement changé ça depuis. Il me semble que c'était ça. Autrement dit, l'être devenu personne, ou atteignant à sa personne, lorsqu'il pense, c'est le « je » qui pense. Lorsqu'il agit, c'est le « je » qui agit. Lorsqu'il aime, c'est le « je » qui aime. Ce n'est pas une pensée qui se pense en lui, ce n'est pas une action qui serait comme suscitée par je ne sais quel inconscient. Et puis, l'amour n'est pas une chute. Il n'est pas le résultat du fait de tomber amoureux, mais c'est un acte. Dans le « je t'aime », je ne sais pas, c'est hier, je ne sais pas si c'est Pascal Chabon ou quelqu'un d'autre qui a dit effectivement qu'on aimait à être aimé. Oui, on vibre au fait d'être aimé. Hein, quand on me dit « je t'aime », évidemment, on est très heureux d'être aimé, mais l'important, c'est le « je ». C'est que quand on dit « je t'aime », on dit « je suis la source de cet amour ». Et pourquoi en suis-je la source? Parce que tu es, toi, l'objet d'une élection, d'un choix, et pas le fruit d'une chute. Ok? Alors, attention, je dis bien que le premier élan vers quelqu'un que l'on aime, il peut être purement sensible, sensuel à la limite, on est attiré par quelqu'un, on tombe amoureux. Mais la chute n'est jamais quelque chose qui fait durer un amour de libre et un amour de la personne. Mais si je suis source de mes pensées, source de mes actions, source de mes amours, eh bien je suis aussi un être responsable. Il n'y a plus d'autre sur qui se défausser. Je ne peux pas dire « Ah oui, mais je pense ça, mais ça c'est l'influence de ma grand-mère qui… » voilà. Hein. J'agis comme ça, oui, mais si vous avez su ce qui s'est passé dans mon enfance, ok, ça ce sont des circonstances. Hein. Et puis d'amour, j'y peux rien, je l'ai dans la peau. En médecine, on appelle ça une affection cutanée. Alors, c'est... Donc, on devient responsable. Donc, la liberté et la responsabilité, au fond, ce sont deux faces d'une même pièce. J'aime bien dire une pièce d'or, parce que or, en hébreu, ça veut dire la lumière. Hein, ce sont les deux faces. Alors, l'être, il devient responsable de ce qu'il est. Pensez de nouveau, Antoine. La motivation est une raison de choisir dans laquelle la conscience se reconnaît, que la conscience fait sienne parce qu'elle se sent prise par elle. Vous vous souvenez de cette fameuse définition de la motivation chez Antoine Lagarandré. La conscience se sent prise. D'accord, il y a de l'affectif. Je suis attiré, je ne suis pas attiré. Mais le fin fond de l'histoire, c'est que la motivation est d'abord une raison de choisir. C'est un choix libre, actif. Comment l'élève, comment chacun d'entre nous, pourrait-il être motivé dans ce sens-là, c'est-à-dire faire un choix libre de l'objet de connaissance, s'il n'est d'abord un peu avancé sur le chemin de la personne libre et responsable? Donc la définition même de la motivation chez Antoine nous signale que la gestion mentale est une pédagogie du septième jour. une pédagogie de la liberté responsable. Donc si je fais une petite pause dans le développement de mon anthropologie ici, je vois au fond, et je vous rappelle Boubert, que nous sommes des individus. Nous sommes des êtres de nature. Nous sommes des animaux. En fait, pas tellement comme les autres, mais des animaux tout de même. Nous partageons leur nature, mais un autre chemin nous est proposé qui peut nous mener jusqu'à la personne. Jusque-là, ça va. Vous voyez clair. Bien. Alors, c'est une affaire très importante parce que, voyez, là aussi, Antoine Lagarandrie insistait toujours là-dessus. Vous connaissez, il adorait jouer avec les mots. Hein. Il disait toujours, il n'y a pas de connaissance, hein, vous souvenez, connaissance, sans les sens. Et il disait, en ça il était très aristotélicien, il disait évidemment que toute connaissance procède des sens. Autrement dit, il ne s'agit pas de laisser sur la route la nature de l'homme et puis dire l'homme est un pur esprit, c'est simplement une personne qui transcende. Non, il est enraciné dans une nature. Il faut tenir en compte le fait que l'enfant a vécu dans tel contexte, a subi telle influence, a peut-être tel handicap, mais simplement, ce qu'affirme une anthropologie de la liberté, c'est que ce sont là des conditions, mais pas des conditions définitives et qui empêchent l'accès à un plus-être. C'est pas quelque chose qui empêche l'homme réel de devenir son possible. C'est pas ce qui empêche la personne de surgir, cette personne que Vladimir Lossky décrivait comme l'irréductibilité d'un être à sa nature. Ça, c'est très beau comme formule. L'homme est irréductible à sa nature et c'est en ça qu'il est une personne. La nature, elle est là. On ne saurait s'y réduire. Et pour moi, la pédagogie de la gestion mentale, c'est tout à fait cela. C'est de dire, tu peux, à partir de ce que tu es, tu peux aller vers davantage, tu peux aller vers ta personne libre et responsable. Mais voilà, il faut encore avancer d'un pas dans cette anthropologie. Parce que si je suis un être libre, autant que possible, un être responsable, autant que possible, je suis aussi un être seul. Je ne dis pas esselé, je dis seul. La solitude est essentielle. Parce que dès lors que vous êtes responsable, il n'y a plus d'autre sur qui se défausser. Et nous avons tous fait cette expérience. Lors d'une très grande joie, ou d'une décision très importante à prendre, ou alors d'un deuil cruel. Nous avons beau être entourés de toute l'affection du monde, d'avoir des mains qui se posent sur nos épaules, sur nos têtes, et qui nous aident. Tout ça est une aide extrêmement précieuse. Mais au fond de nous, nous savons que nous sommes seuls à nous réjouir, seuls à décider et seuls à souffrir. C'est un lieu de solitude, la responsabilité. Et je crois que la prise de conscience de cette solitude, elle est essentielle en pédagogie. Une des caractéristiques du sixième jour, c'est la vie en meute. Les animaux vivent en meute, plus ou moins, les fourmis un peu plus que les ours. Mais enfin, ils vivent tous en meute. Quand il s'agit de l'animal humain, on parle de société, quand il s'agit d'école, on parle de classe. C'est une forme tout à fait primitive. Et je prétends qu'il n'y a pas de relation dans cette vie de meute. Il n'y a que de la communication et du besoin. On a besoin les uns des autres, c'est une question de survie. Et on peut être reconnaissant de ce que l'autre répond à mes besoins. Mais la véritable relation, elle arrivera au septième jour. Lorsque l'autre sera reconnu comme un être libre, comme un être responsable et un être seul. Dans une solitude que je respecte. Et voilà ce qu'est une relation. La relation, c'est la rencontre. Lévinas disait, c'est la rencontre du visage de l'autre. La rencontre du visage de l'autre, c'est cet éblouissement devant un autre dont je sens qu'il est un être libre, responsable, seul, et donc seul à être ce qu'il est. Et pour ça, il faut que je me sois, moi, découvert un peu comme personne. Sartre avait mille fois raison de dire que l'enfer, c'est les autres. Mais il en est resté au sixième jour. Les autres, la masse, la meute, c'est horrible. Alors, on a tous des capacités de résistance différentes. Pour certains, la foule commence à 100 personnes. Pour d'autres, moi, je me situerais à peu près à 6 ou 7. Brassens, il semble que c'était 4, à partir desquels on devenait des... Hein, d'accord ? L'enfer, c'est les autres, mais le ciel, c'est l'autre rencontré dans sa singularité personnelle. Hein ? Sartre ne fait pas aller au bout de sa formule. Mais il y a une autre raison à la solitude. Et si j'en parle, alors que c'est totalement hors sujet, c'est parce qu'Antoine en parlait dans ses conférences. C'est la mémoire de la mort. S'il est un acte que nous allons affronter dans la plus absolue solitude, c'est bien celui de la mort. Et même si nous tombons joyeusement en compagnie de 300 autres collègues d'un avion, d'une hauteur de 10 000 mètres, et que nous nous crachons au même moment, ce ne seront jamais que 300 morts solitaires, mais jamais une mort collective. Hein? Permettez encore, chers amis laïcs, de encore faire une petite allusion évangélique. On dit que les portes du royaume sont, la porte du royaume est étroite. Ça veut dire que c'est une sorte de tourniquet comme dans le métro, on passe que un par un. Et donc, cette conscience de la mort, j'en parle parce qu'Antoine de la Garandrie, dans une conférence qu'il avait donnée au centre universitaire vaudois, au CHUV, je me souviens très bien qu'il avait cité Montaigne. Hein, la préméditation de la mort, c'est la préméditation de la liberté. Et il avait dit ça, voyez-vous, c'est une conviction essentielle pour un pédagogue. Il faut avoir conscience que finalement, ce que vous construisez, c'est pour une durée qui est limitée, et qu'à la fin des fins, la pédagogie doit conduire l'enfant à être capable d'affronter ce moment de solitude. Ça avait jeté un petit froid dans la conférence. Les gens n'étaient pas forcément préparés à entendre ça, mais je me souviens qu'Antoine l'avait dit vraiment avec force. Et c'est pour ça que je trouvais important de vous le redire. Je ne sais pas s'il l'a écrit quelque part, cela. Mais en tout cas, il l'avait dit comme étant quelque chose d'important. Alors, on pourrait réfléchir sur ce que Montaigne entendait exactement par cette préméditation de la mort. Vous savez, il voulait être trouvé dans son jardin en train de cultiver ses choux. Il voulait être pris dans la mort au moment, en pleine action. Voilà. Et sans. Quitte à, comme disait La Fontaine, quitte à mourir au pied levé, selon l'expression de Jean de La Fontaine. Donc cette conscience de la mort, ce n'est pas morbide. Les choses sont belles, les choses vivantes sont belles, disait Christian Bobin, parce qu'elles portent en elles le secret de leur prochaine disparition. Cette fragilité même de l'être libre est ce qui fait sa beauté aussi. C'est la beauté d'une fleur délicate. Et tout ça va ensemble. Donc il y a, vous voyez, je retrouve une trinité comme avec votre trinité identitaire. Liberté, j'y ajoute responsabilité et solitude. Ce sont là pour moi des éléments tout à fait essentiel à l'anthropologie et à l'enseignement. Faites très attention quand vous dites « mes élèves », comme lorsque vous dites « ma femme »,« mes enfants ». C'est un possessif de don, mais ce n'est pas un vrai possessif. Ce ne sont jamais vos élèves, ce n'est jamais votre femme, vos enfants. Ce possessif n'a dit que le fait qu'ils vous ont été confiés. Et encore, pour un petit moment. Et c'est extrêmement important de voir que la gestion mentale, elle fonde en réalité une pédagogie de la personne. Une pédagogie où chaque élève est reconnu dans ce qu'il est. Alors après, on pourrait discuter, mais je n'en ai pas le temps, on pourrait discuter de savoir dans quelle mesure un enseignement collectif est possible. Et puisque je n'ai pas le temps pour faire des nuances, je rêverais d'une seule chose, c'est dynamiter l'école publique. Pour faire sauter tout ça dans le système scolaire actuel qui se veut, qui se veut de plus en plus normatif, même chez nous, grâce à vous d'ailleurs, en partie. On a pris les bonnes choses, mais malheureusement, on s'est pas arrêté là. Figurez-vous qu'en Suisse, on a la chance d'avoir 26 systèmes scolaires délicieusement incompatibles. Et puis voilà que maintenant, quelques esprits ingénieux qui sont allés prendre des leçons dans votre ministère de l'Éducation ont inventé le projet Harmos. On va mettre de l'harmonie dans tout ça. Hein? Il ne faut pas que les 26 cantons fassent chacun leur petite cuisine. Non, il faut qu'on fasse tous la même chose. Pourquoi? Mais parce que vous rendez compte, les gens sont tellement mobiles, ils peuvent changer d'un canton à l'autre. Hein? Ça représente à peu près 15 personnes. Et il faut que leurs enfants retrouvent exactement le même enseignement, qu'ils ne vont évidemment pas retrouver. Parce qu'ils vont passer de Genève, on enseigne en français, à Zurich où on enseigne en allemand, et ensuite Zurich, ils vont absolument pas s'y retrouver. Hein? Il n'y a qu'une solution, c'est... très gonflé, hein, le gars. Hein, très... Il n'y a qu'une solution, c'est l'enseignement personnalisé, comme on le faisait à l'école de la Garandrée. Une école, un programme. Quand un élève arrivait chez nous, la maman nous demandait, mais dites-vous votre programme, quel est votre projet pédagogique? Moi, je dis, quel est votre projet pour votre enfant? Et après, je vous dirai si on sait faire ou pas. Des fois, on ne savait pas faire. En général, on savait faire. Alors, on bricolait un programme pour lui. Et il faisait son programme. Et il faisait ses tests quand lui estimait être prêt. Et il faisait ses exercices avant la théorie ou les théories avant l'exercice, suivant la structure de son esprit. Et comme ça, on y arrive. Mais franchement, quand on parlait d'éducation nationale, est-ce qu'une éducation peut être nationale? Est-ce qu'une instruction peut être publique? Mais public est un mot obscène. Seul compte la personne. Et je vous répète la personne parce que seule la personne entre en relation. Si vous n'avez pas la personne, vous n'avez que des individus. Et les individus sont en communication les uns avec les autres et ils sont entre eux dans une relation d'utilité. Nécessaire, belle, magnifique. Je suis très heureux que mon médecin s'occupe de moi. Mais c'est une communication et un échange de bons procédés. C'est pas du tout la même chose. Martin Buber, d'ailleurs, que je vous citais au début, disait bien que le moi de l'individu ne rencontre que le cela. Seul le je rencontre le tu. Il faut lire son livre « Je et tu ». La seule chose, c'est qu'il faut trouver une traduction qui soit supportable. Souvent, Buber est déjà compliqué, mais les traducteurs le compliquent encore davantage. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais que je vous réserve aussi pour juste la transition avec mon dernier point, si vous m'autorisez encore, et qui pour moi résume la gestion mentale. Ce septième jour où l'homme apparaît, où la liberté apparaît, où la responsabilité apparaît, se termine par la phrase la plus mystérieuse de la Bible et qui a donné lieu à des contorsions de traduction tout à fait extraordinaires. Alors je vous la donne dans son décalque littéral. Elohim achève au jour le septième tout ce qu'Elohim crée pour faire. Alors là, je vous fais mes simples, mais juste là, quelques secondes de pédanterie absolue. Vous savez, la pédanterie du conférencier, c'est quand il vous lâche quelques mots en hébreu ou en grec, comme ça, où il vous fait croire qu'il connaît ces langues-là, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein? Mais les cinq minutes, c'est négocié avec les organisateurs, avec Vinciane. Ces cinq minutes de pédanterie vous seront remboursées à la sortie. Hein? Alors, Elohim crée pour faire. Bara la asot en hébreu. Bara, c'est le verbe créer. Bereshit, bara, Elohim, au début de la Bible. Au début, Dieu crée. Et puis, là, asot, c'est faire. Pour moi, la conclusion du septième jour dans la Bible, c'est très exactement le fondement de la gestion mentale. Hein? C'est-à-dire, il y a un créer qui est donné, mais ce créer, il est à refaire. Et c'est ça, au fond, la puissance de la liberté. C'est refaire ce qui a été donné. Et le refaire selon son propre projet de sens. Dieu crée pour faire, ensuite il tire sa révérence, il s'en va et il dit débrouille. Ça c'est le fond du septième jour. Je ne sais pas si les autorités, horlogères m'accordent encore 5 ou 6 minutes, parce qu'il y a un point très important. Si un jour, dans 20 ans peut-être, on fait de moi un pape, parce que j'aurai à ce moment-là l'âge et le niveau d'amortissement suffisant pour bien remplir la fonction, la première chose que je modifierais dans l'Église, c'est la conception du péché originel. Je dirais que le péché originel, il est double. En réalité, le vrai péché originel, ça commence avec Cain et Abel. Et j'appelle ça le péché originel de la comparaison, qui est un cancer pour la pédagogie. Alors, je vous raconte ce texte toujours dans ce livre aux éclats dont je vous parlais au tout début. Le texte commence comme cela. Adam connut Ève et l'enfanta Cain. Intéressant parce qu'on nous parle déjà de connaissance. C'est exactement le verbe yada, le verbe que vous allez retrouver dans le fameux arbre à connaître bien et mal, dont j'ai malheureusement pas le temps de vous parler, mais il y a là des textes essentiels sur la liberté, y compris dans la tentation d'ailleurs, hein, où le serpent n'est pas un serpent en hébreu, mais est décrit comme un devin, ce qui est tout à fait autre chose. Mais bon, on n'a pas le temps. Alors, Adam connut Ève, elle enfanta Cain. Très intéressant le nom de Cain. D'un verbe qui signifie acheter, acquérir. Quand vous allez faire vos courses à la supérette du coin, ce que vous achetez, c'est du Cain. C'est ce que vous avez acheté, ce que vous avez acquis. Alors voilà, déjà, première faute originelle, l'autre, l'enfant, celui qui m'est donné, il devient ma chose. Il est ma possession. Et Ève, qui savait qu'on ne parlerait plus d'hébreu d'ici quelques années, nous donne une jolie indication parce qu'elle nous fait l'exégèse de cette première phrase. Elle nous dit « car j'ai acquis un homme avec Dieu ». Alors on va passer sur cette étrange reconnaissance de paternité. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le bon Dieu a bon don. Hein. Même si ce serait drôlement intéressant, parce que vous avez là la définition de l'intégrisme. Cette idée, ce n'est pas la mienne, je l'ai enfantée avec Dieu. Je fais porter le chapeau à Dieu. Je viole le deuxième ou le troisième commandement, je ne sais pas, qui dit, non pas tu ne blasphémeras pas, comme on dit dans les traductions, mais tu ne porteras pas le nom de Dieu en vain. C'est l'interdiction de l'intégrisme. Et il y a des intégrismes religieux, il y a des intégrismes politiques, il y a des intégrismes pédagogiques. Hein? Donc ne cherchons pas la source de nos actes, de nos pensées, dans une transcendance, alors que c'est ma responsabilité et ma liberté qui en sont les sources. Hein, Gott mit uns, Dieu le veut, tout ça. Prudence. Prudence. Ève n'est pas prudente. J'ai acquis un homme avec Dieu. Affaire classée. Le péché originel d'Adam ici, c'est de s'être tué, hein, puis d'avoir rien dit comme d'habitude. C'est lâchement des filles. Donc, celui à Cain est l'acquis. Ensuite, phrase suivante. Et Ève ajouta à enfanter. Je traduis toujours littéralement. Autrement dit, le processus continue, mais dont la référence est Cain. On va faire d'autres Cain. Ce qui va naître de ce procédure, c'est un enfant comparé, qui va avoir son identité définie par un autre. Et comment s'appelle cet enfant ?
Abel.
Et que veut dire Abel en hébreu ? Allez, on se voit pour une petite séance de pédanterie. Abel, fumée, vanité, inexistence. Et quand le Kohelet reprendra, vous savez, vanité des vanités, tout est vanité, c'est Evel va Evelim, Evel des Evel, tout est Evel, Abel des Abel, tout est Abel. Donc cet être qui n'existe que par comparaison à l'autre est un être sans existence, un être qui est fumée, qui est vanité. Et ça va continuer, puisqu'ils vont se mêler de comparer leurs offrandes, Cain et Abel, et ça va déboucher sur le fratricide. Ça ne fait pas un joli péché originel, ça. Péché originel dans nos classes, hein, nous disons, tel est meilleur que tel autre, celui-là est plus rapide, hein, et on se met à les comparer et à leur donner des notes. C'est peut-être nécessaire, mais il faut donner un sens à ces notes. Il faut se dire que nous ne sommes pas en train de comparer les êtres, Nous sommes peut-être en train de comparer des savoir-faire. Nous sommes peut-être en train de donner à l'élève des indications quant à son niveau de progression. Mais ce ne sont pas des êtres que l'on compare. Jamais. La comparaison, c'est le péché mortel de la pédagogie. Un être libre, un être responsable, et ce n'est pas moi qui le dis, et je crois ne pas forcer la pensée d'Antoine en disant ça, c'est un être qui est un incomparable. Je ne crois pas forcer le trait. Je conclue, il est 10h, je conclue simplement en vous disant ceci par une note peut-être un tout petit peu pessimiste. Je me demande, quand je vous regarde avec beaucoup d'affection, en me disant que vous êtes tous des pédagogues, de brillants pédagogues de la gestion mentale, que donc vous êtes a priori à peu près d'accord avec ce que j'ai raconté sur la liberté, que vous avez donc un immense respect de la liberté de vos élèves, que vous les éduquez à la liberté. Je me demande parfois si nous ne sommes pas les derniers mohicans de la liberté. Parce que je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de la liberté. Et je crains beaucoup que la liberté devienne bientôt un concept que l'on trouve dans les manuels d'histoire. Je pense à la technique, à la technologie, qui veut tout automatiser. Il y a 10 ans, on a fait un métro à Lausanne. On n'a pas dit « c'est formidable, ça va transporter des gens, c'est formidable, ça roule sur pneus, ça ne fait pas de bruit ». Non, merveille des merveilles, il n'y aura pas de chauffeur. Ça sera automatique. Il n'y aura pas d'homme. « Abolition of man », disait C.S. Lewis. L'abolition de l'homme, hein, qui est au fond ce dont on rêve. Vous savez qu'aux États-Unis, vous pouvez vous amuser à louer des kidnappeurs. Vous aviez vu cette information? Ce sont des entreprises qui font que vous pouvez leur dire « Écoutez, moi je voudrais bien faire l'expérience du kidnapping, vous vous mettez d'accord sur un lieu, c'est plus cher à domicile parce que c'est plus risqué, dans un lieu isolé c'est un petit peu moins cher, durée maximum 8 jours, et vous prévoyez sur le contrat à l'entrée, vous prévoyez les tortures auxquelles vous êtes prêt à être soumis pendant votre captivité. » Hein? Donc c'est un nouveau jeu qui fait fureur aux États-Unis. Donc vous voyez, on s'amuse de l'enlèvement de l'homme, on s'amuse de son abolition, on s'amuse de son absence. Il faut que l'homme ait le moins possible à intervenir. Il faut que l'homme soit dessaisi le plus possible de sa responsabilité. Et là surgira enfin l'homme de demain, celui qui sera totalement sécurisé, hygiénisé, normalisé, qui, comme disait Philippe Meret, marchera au pas de la loi et sera tout à fait copie conforme. Je crois que nous avons, en tant que pédagogues de la gestion mentale, une mission qui va bien au-delà de la transmission des connaissances, même si c'est énorme, la transmission de la connaissance. Mais nous avons une mission de redonner un peu de souffle de liberté à notre civilisation. Je vous remercie pour votre attention. Même Grimm, que j'aime beaucoup à citer, qui est un grand pianiste, disait que les abolitions sont des sécrétions momentanées d'adrénaline. Donc, passons.